Bonjour, je suis Élodie et je vous accueille sur le podcast Off We Go, le podcast du changement positif. Vous entendrez ici des discussions inspirantes autour des différents objectifs de développement durable développés par l'ONU avec celles et ceux qui s'y consacrent aujourd'hui. Nous nous attacherons à comprendre comment mettre en action concrètement ces objectifs de développement durable au sein des entreprises, des collectivités, mais aussi à titre individuel. Car c'est ensemble que nous ferons de cette décennie la décennie du changement positif, celle de l'action. Les opportunités sont multiples et passionnantes. Bienvenue dans un monde durable. Alors, off we go! Changer les choses, avoir un impact, faire évoluer les mentalités pour un avenir meilleur sont autant d'actions que nous voudrions tous pouvoir mettre en œuvre. À une époque où l'entrepreneuriat est énormément valorisé et les entrepreneurs starisés, on pourrait se dire que ce n'est pas forcément à la portée de tout le monde. Mais pourquoi ne pas se concentrer sur ce qui est proche de nous, notre environnement et notamment de travail? Beaucoup d'entre nous ont des engagements, des convictions environnementales, sociales et sociétales qui restent malheureusement trop souvent à la porte de nos entreprises. Pourquoi n'osons-nous pas porter nos valeurs au sein de notre environnement professionnel? Alors certes, tout le monde ne peut pas être entrepreneur, mais tout le monde pourrait être intrapreneur. Mais qu'est-ce qu'exactement l'intrapreneuriat? Pour répondre à cette question, j'ai la chance aujourd'hui de recevoir Mathieu Favard. Mathieu, après avoir travaillé presque 17 ans chez Danone, entre autres en relations humaines et au centre Recherche et Innovation, a rejoint Corporate for Change et est désormais coach en transition à impact et accompagne celles et ceux qui contribuent à changer le monde. Mathieu va partager avec nous son expérience sur le sujet, comment nous y prendre et nous donner des clés concrètes pour tenter cette aventure d'intrapreneur et faire bouger les lignes. Je ne vous en dis pas plus, je laisse place à ma conversation avec Mathieu Favard. Alors, off we go! Bonjour Mathieu.
Bonjour Elodie.
Merci d'avoir accepté d'être au micro d'Off We Go aujourd'hui. Je suis ravie de pouvoir échanger avec toi. On va aborder un sujet très important qui est la mobilisation et le sujet de la transformation au sein des entreprises notamment. Mais d'abord pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, nous en dire un petit peu plus sur toi et sur le parcours qui t'a amené jusqu'ici?
Avec plaisir. Moi, du coup, j'ai travaillé près de 17 ans chez Danone en relations humaines. J'ai travaillé en filiale, au groupe et dernièrement aussi au centre de recherche et innovation. Et ces dernières années, justement, j'ai beaucoup travaillé sur des sujets de transformation collective et individuelle. Dans mon parcours, j'ai aussi fait un tour du monde en 2013-2014. Pour
quelque chose en commun.
Et voilà. Et justement, pour oser ma vie et vivre mes rêves, en fait. Parce que j'ai eu un parcours un peu très dans les rails, avec prépa, école de commerce, grosse entreprise. Et en fait, j'ai eu la chance de vivre un rêve éveillé de 9 mois, lors duquel vraiment j'ai pu reconnecter aux autres, au temps, à la nature, à la spiritualité et à moi-même. Et aussi et surtout à des enjeux sociaux et environnementaux, notamment comme la pauvreté, l'extrême pauvreté et le réchauffement climatique. Et surtout depuis mon retour, du coup, une formidable envie de m'engager par mon travail. En interne d'abord, par de l'intrapreneuriat social à temps partiel, et ensuite en rejoignant Ticket for Change à temps partiel depuis maintenant plus de 6 ans. Ticket for Change, c'est une asso qui en fait a pour vision que les talents de chacun peuvent changer le monde, et comme mission de dénicher, activer et mettre en lumière les leaders du monde de demain. Et aujourd'hui d'ailleurs, je continue cet engagement-là en lançant mon activité de coaching auprès de celles et ceux qui contribuent à changer le monde. Et ce qui m'anime vraiment en me levant le matin, moi, c'est de révéler et d'accompagner les talents de celles et ceux qui veulent avoir un impact positif sur le monde. C'est une manière pour moi, en fait, de relier mon parcours RH à la finalité que je veux lui donner.
Et est-ce que tu te souviens s'il y a eu un déclic particulier ou pour toi ça a été un processus qui t'a amené à t'intéresser et à t'engager sur ces sujets de transition écologique?
Alors, effectivement, il y a eu tout un processus, mais si je dois retenir un déclic, c'est mon séjour dans une communauté de l'ONG Gawad Kalinga aux Philippines. En fait, entre octobre 2013 et novembre 2013, ce pays il a subi 2 séismes et un typhon, le typhon Yolanda, qui a fait plus de 6000 morts. Et à cette étape justement de mon tour du monde, mon intention n'était pas juste de voyager, de traverser le pays, mais vraiment de m'arrêter et de donner un coup de main. Du coup, dès mon arrivée à Manille, je me suis mis donc à la recherche d'une ONG, et c'est là que j'ai fait la rencontre de Gawad Kalinga, qui vise justement à éradiquer l'extrême pauvreté à travers deux leviers principaux. La création de communautés, ils en ont créé plus de 2000 à travers toutes les Philippines, pour justement retrouver un toit et le vivre ensemble. Et l'entrepreneuriat social, pour identifier des modèles économiques à déployer au sein de ces communautés. Du coup, dès le lendemain, bah voilà, me voilà parti sur l'île de Negros Occidental, à rejoindre la communauté Gawad Kalinga de Manapla. Et j'y ai vécu un séjour de 10 jours, qui a, pour moi, changé ma vie, avec des rencontres bouleversantes et inspirantes, et qui m'ont montré que c'était possible d'agir concrètement contre l'extrême pauvreté. D'ailleurs, le nom de la structure de coaching que je viens de créer leur rend hommage, parce que je l'ai appelé Manapla Coaching. Et en fait, à mon retour du tour du monde, je me suis engagé dans cette ONG pendant près de 3 ans et j'ai développé notamment cette passion pour l'entrepreneuriat social.
Ouais, c'est vrai qu'il y a souvent un avant et un après. Après ce type d'expérience, on en revient forcément changé et c'est bien de pouvoir amener ça après dans son quotidien parisien ou français, mais et de pouvoir faire bouger les choses. Alors c'est vrai que beaucoup de gens partagent, on va dire, ces convictions écologiques ou sociales, alors après de manière plus ou moins poussée bien évidemment, mais c'est vrai que bon, il y a la sphère privée où on peut avoir ce type de convictions, de croyances, etc. Mais on n'ose souvent pas, ou on ne sait pas trop comment faire pour les faire vivre dans son milieu professionnel, où des fois ça peut paraître un petit peu difficilement conciliable, pour plein de bonnes ou mauvaises raisons. D'ailleurs, l'objet n'est pas forcément de juger pourquoi on ne peut pas forcément les amener. Mais du coup, comment on fait pour allier les deux? Et ne pas se renier totalement, finalement, quand on passe la porte de l'entreprise. Voilà, comment, voilà, selon toi, on peut les faire vivre dans son quotidien professionnel également?
C'est une super question, parce qu'effectivement, sur le papier, c'est pas toujours simple, car dans le milieu professionnel, on est souvent cantonné dans un rôle, une fiche de poste, ou une activité qui, du coup, a priori, elle n'intègre pas ou peu ces enjeux sociaux et environnementaux. À moins justement d'être dans une ONG, une asso, ou dans un département RSE, si je caricature.
Mais c'est vrai que dans les entreprises, finalement, à but, un peu traditionnel et avec un but économique poussé, c'est déjà moins évident.
C'est ça. Ouais. Et du coup, je peux comprendre que face pourtant à l'urgence et l'accélération de ces enjeux, on puisse être frustré de ne pas agir dessus par son travail au quotidien, surtout quand on se dit que l'on a en moyenne 80 000 heures à travailler dans une vie.
Combien?
80 000 heures en moyenne.
Oui. J'avais fait le calcul.
Bon, plus d'accord. Ou moins, hein, surtout la réforme des retraites.
Ouais, c'est plus.
Alors du coup, effectivement, la question centrale, c'est comment réconcilier qui je suis dans mon travail et qui je suis en dehors de mon travail. Et dans mon cas, en fait, ça a d'ailleurs commencé par des engagements en dehors du travail, notamment par mon investissement dans l'ONG, comme je l'ai mentionné plus tôt, et je faisais ça le soir et le week-end. Après, j'ai rejoint les Restos du Cœur pour aller au contact de cette pauvreté qui n'était pas juste aux Philippines, mais à bien un kilomètre de chez moi. Je suis passé à l'action aussi en me documentant et en creusant le sujet, notamment via le MOOC Ticket for Change réalisé avec HEC qui s'appelait « Devenir entrepreneur du changement ». Et puis, quand on fait tout ça en dehors du boulot, à un moment, on se dit mais qu'on a justement l'impression, comme tu dis, de se renier. De faire un travail classique le jour et puis d'essayer de mettre une cape de super-héros le soir et le week-end.
Des vies parallèles.
Voilà, des vies complètement parallèles. Or, ça, c'est pas tenable dans la durée. En tout cas, pour moi, c'était pas tenable dans la durée parce que j'avais vraiment besoin de mettre mes engagements au cœur de mon travail. Donc, comment on peut réconcilier ça? La première chose, je pense, c'est vraiment d'identifier les causes qui nous touchent le plus, d'une part. Et d'autre part, d'aller regarder qu'est-ce que j'aime faire? Quels sont mes talents? Mes compétences? Et il y a un super outil d'ailleurs pour faire ce travail-là, qui s'appelle l'Ikigai. Mathieu Dardaillon en parle bien dans son livre « Activez vos talents, ils peuvent changer le monde ». C'est vraiment cet outil-là qui permet...
L'inspiration japonaise, non, c'est ça ?
Exactement, ouais. C'est la raison de se lever le matin. Ouais. Et qui permet justement d'aller explorer ça. À la fois ses talents d'une part, mais d'autre part aussi les causes. Et après, c'est du coup d'identifier comment je peux intégrer ces convictions dans mon job et donc faire mon métier différemment. Donc ça, c'est déjà un premier niveau, une fois qu'on a récolté ça. Soit on peut changer son métier tel qu'on le fait tous les jours, soit on peut aussi initier un projet dans son entreprise en lien avec ses convictions. Et là, on commence à toucher à l'intrapreneuriat,
ouais,
et potentiellement de l'intrapreneuriat social ou sociétal. On peut aussi s'appuyer sur une opportunité dans son entreprise. Il y a un éventuel engagement B Corp, entreprise à mission, ou simplement une démarche RSE ou un dispositif de bénévolat interne. Et puis après, si tout ça n'est pas possible, bah, l'idée, c'est peut-être de trouver le job qui le permet ailleurs.
Oui, bien sûr.
De monter sa boîte ou d'imaginer des formats de temps partiel. Voilà. Je pense que ce qui est important dans ces démarches-là, c'est surtout d'accepter le temps long, de ne pas connaître le chemin à l'avance, à condition justement d'occuper ce temps long en le parsemant de rencontres,
ouais,
inspirantes. Ça va être clé.
Mais bien sûr. Et c'est vrai que, bon, une fois qu'on a ces convictions et qu'on se dit qu'on va aller mobiliser les forces en interne, comment on peut embarquer ses collègues ? Parce que c'est vrai que ça peut être des sujets qui peuvent être un peu clivants, finalement. On a tous, alors, l'oncle, la tante, au dîner de Noël ou au dîner de famille, climato-sceptique, mais ça existe aussi chez les collègues. Non, mais je rigole, mais voilà, c'est vrai qu'on entend souvent sur...
Je vois bien les trois collègues qui viennent
voilà, voilà, ou se dire, ouais, non, mais en fait, ça sert à rien, ces petites actions, ceci, cela. Donc, voilà, comment on peut embarquer un peu un noyau de collègues autour de soi dans ce type de projet ?
Justement, dans ce que tu viens de dire là à la fin, ce qui est juste, c'est le noyau de collègues. Je pense que si déjà on n'a pas vocation à embarquer tous ses collègues, et plutôt dans une logique de stratégie d'alliés, d'ailleurs issue de la sociodynamique, c'est d'identifier les personnes autour de soi qui sont déjà le plus susceptibles de me suivre, de faire alliance avec moi. Parce que souvent, justement, on s'épuise à aller vouloir convaincre ceux qui ne sont pas convaincus les plus durs. Et justement, dans un second temps, d'aller voir ceux qui sont les plus sceptiques, à condition que ça soit pertinent pour mon projet. Si ça l'est pas, pourquoi aller les voir ? Et toujours dans un esprit de stratégie d'allié, de pas hésiter à solliciter parfois son premier cercle, plutôt que d'aller les voir directement. C'est souvent plus pertinent. Donc, décomposer tout ça, puis un enjeu d'embarquer sur le pourquoi et laisser vraiment la place à la co-construction sur le comment et le quoi. Et ça, c'est souvent plus engageant que quand on arrive avec une bataille d'arguments. et embarquer sur ces sujets-là, c'est faire de la place à l'autre, c'est co-construire, c'est laisser la place à l'autre avec ses croyances, ses convictions, ses envies, ses doutes, ses peurs, pour justement discuter ensemble et trouver ensemble des solutions plutôt que d'imposer des solutions toutes faites. Ce que j'ai vu qui pouvait marcher aussi, c'est d'utiliser des alliés externes, en dehors de son organisation, de faire témoigner soit des pairs, des pionniers, des experts, parce que parfois on n'est plus audible en interne quand on essaye de faire bouger les lignes. Alors quand on fait parler à l'externe, bah, ça a souvent plus d'impact. Moi j'ai une anecdote là-dessus, quand j'ai monté un programme d'entrepreneuriat en 2016 au sein de Danone, qui s'appelait Danone for Change, et pour initier ça, j'ai organisé une réunion avec mon boss et deux personnes de Ticket for Change. Et on a collé sur le mur l'image de Franck Ribou qui a rencontré Mohamed Younous au moment où ils ont lancé Danone Communities. Et on s'est dit, bah, si jamais, nous, dans cette pièce, on devait rejouer la scène, la rencontre entre Danone et Ticket for Change, qu'est-ce qui pourrait naître de ça ? Au service de quoi on pourrait le faire ? Quelle pertinence pour l'entreprise aujourd'hui ? Et de faire vraiment, après, laisser la place sur bah, comment on se rejoint, sur quelle conviction, sur quelle vision. Et seulement après, on va passer au comment on met ça en œuvre et au quoi. Et ce quoi a atterri sur un programme d'entrepreneuriat social.
Alors justement, tu parles beaucoup d'entrepreneuriat, je vais y arriver. Est-ce que tu peux bah, du coup développer un petit peu le concept, enfin de quoi on parle, comment ça fonctionne ? Et est-ce que selon toi, tout le monde peut devenir... intrapreneur, si je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, intrapreneur.
Intrapreneur, ouais.
Bah, on parle beaucoup d'entrepreneur, mais là on parle d'intrapreneur.
Bah, tout simplement, effectivement, un intrapreneur, c'est un entrepreneur dans une entreprise, dans une organisation. Au sens strict, on peut se dire que c'est un salarié qui initie un projet à impact sociétal dans son organisation. Là, je parle d'intrapreneur social. Au sens large, ça peut être vraiment tout salarié ou toute salariée qui a envie de faire bouger les lignes au sein de son organisation et qui contribue à la transformation positive et sociétale de son organisation. Et du coup, ce qui va faire émerger l'intrapreneur, c'est souvent chez des personnes qui sont très attachées à l'organisation, qui aiment vraiment leur organisation et leur entreprise, et qui par ailleurs ont des frustrations sur des problématiques, des choses qui ne marchent pas, des opportunités qui sont pas prises. Et parce que il y a une frustration d'un côté et de l'autre côté un vrai engagement pour l'entreprise, bah souvent il y a une volonté de mise en mouvement et de faire émerger un projet, une solution, une idée pour résoudre ça. Et c'est d'ailleurs la vraie différence entre le chef de projet et l'entrepreneur. Hein. Chef de projet, on lui donne un projet, on lui dit t'as 6 mois pour le faire, et puis il est plutôt à organiser son projet avec la tête dans la majorité des cas. L'entrepreneur, il va cheviller ça avec ses convictions, avec ses voilà, ce qui le met en mouvement, ce qui l'anime, pour donner vie à tout ça. Est-ce que ça va demander, comment ça fonctionne? Bah, l'idée, le point de départ, c'est d'apprendre déjà à changer de regard, de s'inspirer, de se dire que c'est possible. Ensuite, on va aller regarder comment on peut se connecter à ses talents, ce qu'on a envie de changer dans ce monde, justement, et dans son entreprise en particulier. Donc, je faisais référence à l'Ikigai tout à l'heure. L'idée, après, c'est d'identifier précisément le problème que l'on veut résoudre. Chez Corporate for Change, on dit ne tombez pas amoureux de la solution, mais du problème. Et puis après, de faire émerger des idées pour résoudre ce problème, puis prototyper, puis tester, puis itérer. Et enfin, convaincre et embarquer. C'est ça, ça va être un peu l'aventure de l'entrepreneur au sein de son organisation. Alors, tu me posais la question de est-ce que c'est accessible à tout le monde ou pas? Au sens strict, ça peut parfois, effectivement, ne pas être accessible à tout le monde. Mais si on élargit aux postures intrapreneuriales, là, je pense que c'est à la portée de chacun. Donc, c'est-à-dire, bah, avoir envie de changer de regard, de faire des tout petits pas concrets, de partir d'un problème plutôt que d'une solution toute faite. Voilà, ça peut vraiment avoir comme pouvoir de juste changer des petites choses dans son quotidien. C'est déjà ça aussi, l'esprit intrapreneurial. Mmh.
Est-ce que tu peux nous donner un exemple que toi, tu as pu... parce que chez Danone, tu as eu cette posture ou ce rôle, je ne sais pas comment on peut dire, d'intrapreneur, ouais. De nous donner un exemple de... Je ne sais pas si on peut dire de projet que tu as pu développer ou d'action que tu as pu mettre en place avec cette casquette d'intrapreneur.
Bah justement, moi, j'étais un peu dans l'inception de l'intrapreneuriat parce que mon projet intrapreneurial, c'était un programme d'intrapreneuriat. Parce que moi, mon métier, c'est un métier de RH et du coup, c'est de développer les talents. Et du coup, c'était justement comment je peux développer des postures entrepreneuriales, des nouveaux talents dans l'organisation au service de la vision de Danone à cette époque-là. Et voilà. Et du coup, mon projet, enfin, monter un programme d'intrapreneuriat, c'était en soi un projet intrapreneurial qui a commencé comme ça avec cette frustration de se dire comment on peut libérer le potentiel de tous les talents de Danone au service de la vision et de la mission de Danone. Et pour libérer ce potentiel-là, comment on crée un espace et comment on donne des outils, des manières de faire, des nouvelles approches pour permettre à chacun d'être acteur de ça et pas suiveur juste d'une stratégie. Donc c'est laisser la place à chacun pour s'exprimer, agir et impacter.
Et c'est vrai que dans une entreprise, bon, bah, y a différentes... Alors ça dépend des entreprises dans lesquelles on est. Évidemment, tout le monde n'est pas dans ce qu'on appelle des entreprises libérées, sans hiérarchie, etc. Il y a souvent des rôles et responsabilités, un organigramme, etc. Avec finalement plus ou moins de responsabilités et si j'ose dire de pouvoir de décision finalement attaché à ça. Selon toi, quels différents rôles on peut jouer, enfin peut-on jouer dans l'entreprise?
Il y en a plein et ça sera à chacun de trouver ce qui lui convient le mieux dans la modalité, selon ça peut, là où il ou elle est dans l'organisation, de son métier, de sa seniorité, enfin voilà, chacun et de son envie et du temps aussi qu'il pourrait avoir à dédier à cela. Moi je vois plusieurs possibilités, on peut aller de, comme je disais tout à l'heure, changer son métier au quotidien pour intégrer plus d'impact sociétal. Exemple, un acheteur qui va revoir la filière de sourcing et qui va décider de mettre plus de critères sociétaux, environnementaux dans le choix du sourcing, c'est déjà un acte d'intrapreneuriat. Un comptable qui va sortir uniquement de la comptabilité économique et qui va prendre aussi des critères sociétaux et environnementaux, c'est déjà intégrer de l'impact sociétal dans son métier. Ça, c'est une première manière. On évoquait aussi le fait de développer un projet intrapreneurial. Ça, c'est une autre manière d'agir, Encore une fois, partant d'un constat, d'une frustration, d'une opportunité non prise, et de monter quelque chose à travers cela. Ça peut être aussi tout simplement mener des actions de sensibilisation. Il y a beaucoup la fresque du climat et plein d'autres fresques qui en ont suivi par ailleurs. Chaque salarié peut initier ce genre d'action de sensibilisation, prendre la parole, prendre l'initiative de mener ce type d'action. Ça peut être lancer et animer une communauté. J'ai l'exemple d'une collègue qui, avant qu'on soit Bicorp au sein de Bledina, avait monté une communauté de Bicorp Champions, justement pour sensibiliser sur le sujet et même pousser auprès de la direction le besoin de s'engager là-dessus. Et puis ça peut être aussi tout simplement s'inscrire dans les projets en lien avec déjà les engagements de l'entreprise. Se rejoindre des projets qui nous parlent, sur lesquels l'entreprise s'est positionnée. Moi, il y a un collectif qui m'inspire beaucoup, justement, ce sont les collectifs. Je trouve ça formidable, l'initiative qu'ils ont pris là-dessus, qui est justement de créer un réseau de professionnels citoyens pour transformer les entreprises de l'intérieur, notamment au travers de collectifs de salariés engagés. Et en fait, ensemble, ils mettent plein d'actions, ils se relient, ils partagent leurs actions, ils partagent leurs bonnes pratiques, ils impulsent ce mouvement inter-entreprise et ils montrent qu'effectivement, il y a plein de manières d'agir de l'intérieur.
Et c'est vrai que, bon, on en discutait juste avant de commencer l'enregistrement. Moi, je crois que tu partages aussi vraiment la conviction que, profonde de plus en plus, que pour arriver à accélérer finalement cette transition, alors après on l'appelle comme on veut, mais transition écologique, on va dire ça comme ça, il faut engager le monde économique dedans, puisque ça représente une part importante de la société dans laquelle on est, puis c'est là où se trouve basiquement l'argent, et pour arriver à faire cette transition, ça coûte cher, donc il faut arriver à les mobiliser, et c'est pour ça que je voulais aussi faire ce sujet-là et ce podcast-là avec toi. Mais c'est vrai qu'on se rend compte que dans des entreprises, quand on y est, bon, on peut effectivement, après avoir mobilisé ses collègues, etc., on se heurte souvent à finalement, on va appeler ça la direction, etc., ou son management, qu'il faut arriver à convaincre et à embarquer. Parce que c'est vrai que sans ces appuis ou ces sponsors-là, c'est quand même difficile de faire progresser rapidement ou d'avoir un vrai impact au sein de l'entreprise. Donc voilà, selon toi, comment on peut arriver, une fois qu'on a fait ce travail finalement un peu avec ses collègues et son noyau, on parlait du noyau, où on a mobilisé ses forces sur les personnes qu'on pouvait convaincre, comment on fait pour convaincre son management, son boss, les gens qui peuvent aider à enfoncer le clou définitivement.
Alors, vaste question. Je vais essayer d'y répondre, mais je suis pas sûr d'avoir toutes les solutions. Quelques pistes. Je pense qu'une première piste, c'est vraiment d'ancrer le sujet dans la stratégie, dans les enjeux de son entreprise. Plus on est loin de ces sujets-là, moins on a de chances d'embarquer et de convaincre. Donc, où est la zone, en fait, de frottement, justement, entre c'est un sujet clé de l'entreprise et potentiellement un sujet d'impact social peut être en lien avec ce sujet-là. Donc, plus on est ancré dans la stratégie, dans les enjeux de l'entreprise, plus on a déjà l'opportunité de convaincre son management. Après, il y a l'enjeu, notre piste, ça peut être vraiment d'identifier les vrais problèmes. Il y a plein de fois où on se heurte à des faux problèmes parce qu'on va trop vite, parce qu'on comprend mal les choses, etc. Donc, dédier vraiment du temps à bien comprendre les problèmes plutôt que d'apporter tout de suite trop vite des solutions, et de montrer à quel point on est allé dans l'étude du problème en interrogeant les bénéficiaires potentiels les personnes touchées par ce problème-là. Ça me paraît clé. Après, on aura le temps, effectivement, d'apporter des premières pistes de solutions, voire de les co-construire, justement, avec son management. Ça paraît important. Ce qui peut embarquer aussi le management, c'est montrer à quel point aussi ça peut être un levier de développement pour soi et pour l'entreprise. L'entreprise est intéressée aussi pour développer justement ses talents, les retenir, etc. Et si on arrive surtout là à la frontière, surtout en ce moment.
Il y a une guerre des talents.
Exactement. Clairement. Si ça peut être un levier d'engagement, de développement des talents, ce type d'initiative-là, que l'entreprise peut justement plus faire rayonner, là on a encore aussi potentiellement un point d'accrochage avec le management. Et ce qui me paraît clé, et ça, c'est peut-être une dernière piste, c'est vraiment, dès cette étape-là, se comporter en intrapreneur. En fait, juste mettre dans l'idée qu'on sort d'un rapport classique dans nos organisations de « je suis collaborateur à et je vais voir la direction ou le management », se mettre dans une perspective d'intrapreneur où je les considère potentiellement comme des investisseurs et je vais devoir préparer mon argumentation, mon projet, comme si j'allais chercher un investissement. Ça, c'est pas une posture tout à fait naturelle dans nos organisations, et pour autant, ça peut changer la donne. Parce qu'on va apporter le sérieux, on va apporter le même langage, et on va sûrement avoir un impact beaucoup plus fort quand on se met dans cette posture-là que si on se met en posture classique de demander quelque chose, entre guillemets, à la direction.
C'est vrai que souvent, ce qu'on nous oppose, en fait, dans ce type de projet, c'est que les entreprises, alors encore une fois, il y a les associations, des organisations qui ont déjà ça dans leur ADN, finalement, mais quand ça ne l'est pas... Les arguments économiques et de rentabilité sont quand même avancés finalement très très rapidement. Alors toi, tu as travaillé chez Danone, alors on a eu le départ d'Emmanuel Faber, bon maintenant il y a un petit moment, mais qui s'est aussi heurté, et pourtant c'était quelqu'un qui avait des convictions profondes sur ces sujets-là. On ne connaît pas les détails du départ, mais on sait que ça a été, enfin voilà, qu'à un moment donné, avec des actionnaires, des associés et certaines convictions, ça peut ne pas forcément se rencontrer au bon endroit. Donc, alors je sais qu'il n'y a pas de réponse et que tu n'auras pas forcément une réponse définitive sur le sujet, mais selon toi, voilà, comment on peut essayer un peu de... Je ne vais pas dire de contrer, parce que ce n'est pas le mot, mais comment on peut intégrer finalement ces arguments économiques et de rentabilité pour convaincre, encore une fois, l'entreprise de se lancer, d'investir dans ces sujets-là aussi.
La première chose, je pense que c'est de ne pas opposer l'économique et le sociétal. Justement, même dans des projets, et surtout dans des projets sociétaux à impact sociétal, l'intégration de l'économique est un gage de durabilité, de pérennité du projet. Donc si on l'efface de l'équation directement, effectivement, bah, on fait une grosse erreur parce qu'on se met en risque sur l'impact là-dessus. Donc la première des choses pour moi, elle est de faire du « et ». Comment on fait ? Justement, on est hyper robuste, hyper exigeant sur effectivement le modèle économique de sa solution, plus déjà on lui donne une possibilité de durer. À cet endroit-là, ça me paraît intéressant aussi de pas uniquement regarder les gains, mais peut-être parfois aussi les coûts évités. Il y a plein de projets intrapreneuriaux qui permettent justement d'éviter des coûts à l'entreprise, et ça peut être tout aussi intéressant, et c'est un argument économique tout aussi pertinent et valable. Et après, effectivement, il y a une acculturation aussi sur les aspects quali, les impacts, toutes les externalités positives du projet, qu'il faut savoir bien les regarder, mesurer, questionner pour engager là-dessus.
Et est-ce que tu peux nous donner des exemples qui ont fonctionné ou alors dans ton expérience ou dans ce que tu as pu voir chez Ticket for Change, de ceux qui ont fonctionné, mais aussi c'est intéressant d'avoir ceux qui ont peut-être échoué ou moins bien marché, parce que c'est toujours intéressant de tirer des leçons de ce type d'expérience ou de projet pour pas répéter les choses.
Alors moi, un projet que j'aime beaucoup, c'est le projet de Sophie qu'on avait accompagné du coup, qui travaillait chez Noroto en tant que contrôleuse de gestion, et qui a créé au sein de son entreprise le projet Mana Ara, qui est un programme d'aide aux personnes en précarité pour entretenir ou changer leur véhicule. Et elle a eu un impact d'avoir un déploiement tout en France, partout en France de son projet, dans toutes les concessions à Noroto, et bientôt en Allemagne.
Et c'est elle qui l'avait initié de son propre chef, entre guillemets.
Qui l'a initié, qui a fait émerger, qui est passé par toutes les étapes que j'ai citées tout à l'heure, d'identifier vraiment quel était le vrai problème, comment trouver les solutions avec les concessions, etc. Et monter de toutes pièces ce projet-là. On a eu la chance de l'accompagner aussi pendant un programme inter-entreprise qu'on a mené avec Corporate for Change.
Génial.
Et ça, c'est une super histoire qui s'inscrit en plus dans la durée. On a eu aussi Antoine, qui était acheteur chez Les Deux Vaches. Donc j'ai cité un peu son exemple tout à l'heure sans le nommer, mais qui a justement transformé sa filière d'approvisionnement pour des ingrédients sourcés de manière plus responsable. Donc ça, c'est des exemples de collaborateurs une qui a monté son projet de toute pièce, l'autre qui s'est posé la question de comment je fais la transformation dans mon propre métier, et moi qui m'inspire beaucoup. En exemple.
Et ça, ouais. Juste, je trouve ça effectivement, pardon de te couper, non, mais hyper intéressant, parce que c'est vrai qu'il y a les programmes, on va dire, d'entreprise un peu globale sur la partie RSE, développement durable, etc. Mais c'est vrai que se dire, moi déjà dans mon métier, tout seul ou toute seule, je peux avoir un impact. Et si je regarde déjà mon métier avec un regard différent et avec ce prisme-là, rien que ça, si chacun faisait ça, finalement, ça se transformerait limite tout seul ou presque, parce que on a tous un impact à un moment, on est tous un maillon de la chaîne finalement dans l'entreprise. Et ça, je trouve ça génial ce que tu es en train de dire, c'est que il y avait un acheteur, il y a un contrôleur de gestion, quelqu'un sur la partie office, tu vois, enfin tout ce qui est services généraux peut faire la même chose. Toi, tu l'as fait sur la partie RH. Enfin, chacun peut avoir son impact personnel déjà dans son métier. Et ça, je trouve ça hyper hyper. C'est même pas inspirant, c'est juste hyper impactant de se dire juste en changeant de lunettes, j'arrive à transformer les choses à mon niveau, quoi, sans attendre que ce soit finalement le projet révolutionnaire de la boîte, etc. Et ça va peut-être permettre un peu l'effet domino, quoi, ou l'effet papillon, de se dire moi j'ai commencé, puis ça pourra entraîner d'autres trucs dans mon sillage, quoi. C'est génial.
Exactement, effectivement. Et ce changement de lunettes, il est clé. De prendre conscience qu'en fait je peux aussi ramener mes convictions citoyennes au-delà du portique de passage de mon entreprise, de la porte de mon entreprise. Comment je peux ramener ces convictions-là? Parce qu'il y en a beaucoup, des collaborateurs qui sont engagés en dehors du travail, dans des assos, etc. Mais bizarrement, quand ils passent les portes de l'entreprise, délaissent leurs convictions. Alors que je suis convaincu que ces convictions, elles ont leur place. Dès lors que le collaborateur s'en empare dans son métier par des projets, et que les entreprises font de la place cette citoyenneté des collaborateurs dans les organisations. Et donc il y en a effectivement qui peuvent le faire spontanément. Il y a plein d'entreprises qui ont compris ça aussi et qui font de la place pour ça, qui ont lancé des programmes d'entrepreneuriat. On peut parler du People's Lab for Good à la BNP, de la petite fabrique d'Orange, de AXA for Change. Les deux derniers étant des accompagnements qu'on accompagne avec Corporate for Change. Mais du coup, c'est vraiment révéler ces talents, ces convictions-là dans les organisations pour faire face aux enjeux urgents, importants et complexes sociétaux auxquels les entreprises doivent faire face. Tu me demandais aussi un échec.
Bah oui.
Et là, je vais prendre mon propre cas, du coup.
D'accord.
Parce qu'effectivement, j'avais monté ce programme d'entrepreneuriat. Et à la fin du programme d'entrepreneuriat, on m'a dit c'était bien ton truc, mais patiente un petit peu. On va refaire une nouvelle promo, mais patiente un petit peu. Du coup, j'ai patienté quelques mois, un peu plus longtemps. Puis on m'a dit non, il faut encore patienter, etc. Et en fait, je sentais que c'était pas le bon moment pour l'organisation, etc. Donc j'ai lâché ça à regret. C'est là aussi que j'ai rejoint un ticket for change, parce que j'avais une telle passion pour l'entrepreneuriat social que j'ai voulu continuer à le faire à temps partiel par ailleurs. Et en fait, ce qui est marrant, et il y a beaucoup d'autres entrepreneurs qui m'ont rapporté cette anecdote aussi, c'est que finalement le projet a réémergé 3 ans plus tard. 3 ans plus tard, tout d'un coup, Danone s'était réemparé du sujet de l'entrepreneuriat en faisant une coalition justement avec la BNP, ENGIE, avec le People's Lab for Good, etc., avec une démarche qui s'appelle Entrepreneurs for Good. Et parfois, il y a des projets d'entrepreneuriat qui ne rencontrent pas leur moment. C'est-à-dire, c'est pas le moment pour l'entreprise, mais ça veut pas dire que le projet n'est pas pertinent en tant que tel. C'est juste que c'était pas le bon moment, et c'était bien d'avoir poussé les portes, d'avoir semé des graines pour que peut-être ça réémerge plus tard. Et encore une fois, moi je pense que quelques facteurs qui font que ça marche ou que ça échoue, il y a à nouveau encore une fois l'ancrage stratégique du projet ou même du programme d'entrepreneuriat, l'écosystème de l'entrepreneur lié aussi à la culture de l'entreprise, est-ce qu'on va permettre, laisser l'espace à l'entrepreneur de faire émerger son projet, la question du momentum. Mais ça, c'est valable pour l'entrepreneuriat, mais pour beaucoup d'autres projets dans l'entreprise. La viabilité du « et », c'est-à-dire, comme j'évoquais aussi tout à l'heure, le fait que si on n'a pas de l'économique et l'impact sociétal, ou les sociétales et l'économique, bah là, ça peut mettre en danger et ça peut faire échouer des intrapreneurs. Et puis, c'est encore une fois aussi la capacité à mobiliser en interne, mm-hmm. qu'on a évoqué tout à l'heure.
Oui, bien sûr. Et alors, donc, du coup, si voilà, des gens écoutaient ce podcast et se disent, bon, allez, j'ai envie d'essayer, j'ai envie de me lancer, on peut peut-être être un petit peu perdu. Donc, est-ce que tu as des conseils? Est-ce que tu pourrais nous dire par où on commence, voilà, pour opérer cette transformation?
Alors là aussi, encore quelques pistes, hein, mais pour moi, encore une fois, l'entrepreneuriat, c'est la réconciliation des enjeux qu'on porte soi-même et des convictions qu'on porte soi-même avec les enjeux et les convictions de son entreprise. Donc, un point de départ naturel pour moi, ce serait de regarder soi et de regarder son entreprise. Regarder soi, c'est revenir justement à cet ikigai, à ses talents, à ce qui m'anime, ce à quoi j'ai envie de contribuer. Un outil aussi qu'on peut utiliser souvent, nous, de notre côté, c'est la ligne de vie. Si je reprends tous les événements de ma vie perso et pro jusqu'à aujourd'hui, à quoi ça m'appelle maintenant, aujourd'hui, pour me mettre en action, pour me mettre en mouvement? Qu'est-ce qui me touche? Qu'est-ce qui me donne envie d'agir aujourd'hui? Donc, un premier petit pas, ça serait vraiment de commencer par soi et d'avoir un peu cette démarche d'introspection et aussi de changement de regard. C'est-à-dire que de s'intéresser, de se questionner, de regarder ce que font d'autres collègues, d'autres entreprises, de regarder ce que proposent les collectifs, par exemple, aussi. Donc ça, c'est un premier point de départ. Et puis, je vais citer aussi de regarder l'entreprise, d'être curieux par rapport justement aux engagements de son entreprise. Quels engagements mon entreprise prend aujourd'hui? Est-ce que mon entreprise est certifiée B Corp ou pas? Est-ce qu'elle est société à mission ou pas? Quelle est sa politique RSE? À quels endroits il y a des engagements que mon entreprise a pris sur lesquels j'ai envie de m'investir? Ça, c'est déjà deux points de départ formidables pour commencer les premiers petits pas de mise en mouvement.
D'accord. Et est-ce que, alors tu as commencé à citer l'Ikigai, est-ce qu'il y a d'autres outils que tu peux conseiller ou qui peuvent être utiles ou pas? Ou c'est juste, comme tu dis, commencer par soi? Et tu avais cité aussi le fait d'essayer d'identifier un problème et de se raccrocher au...
Nous, on utilise beaucoup le design thinking, pour le coup. L'approche de design thinking qui consiste justement à partir vraiment sur l'identification d'une problématique et d'être hyper rigoureux dans la méthodologie, dans l'identification de la problématique, d'aller très vite se confronter au terrain, aux bénéficiaires potentiels liés à cette problématique pour tester sa problématique et avoir une démarche après de prototypage simple, rapide, sur lequel on peut itérer rapidement. Et je dis ça, certains peuvent, bien sûr, beaucoup connaissent l'approche du design thinking, mais c'est pas une approche naturelle dans nos organisations. Pourquoi? Parce qu'on va souvent plus à la solution qu'au problème, parce qu'on va tout de suite vouloir un truc qui marche parfaitement bien plutôt que d'accepter un prototype qui n'est pas complètement 100% fonctionnel, mais qui va permettre de faire des premiers petits pas. Ça prend vraiment le contre-pied de certaines postures qu'on a souvent dans les organisations. Et c'est pour ça que pour nous, le design thinking, il est particulièrement pertinent à cet endroit-là aussi.
Alors, l'épisode touche presque à sa fin, mais avant de conclure, j'aime bien poser mes petites questions rituelles. Alors, qu'est-ce qui t'a inspiré récemment? Donc, ça peut être ce que tu veux, un livre, une personne, un documentaire, une citation, je ne sais pas.
Alors, ce n'est pas tout récent, mais je m'y intéresse de plus en plus. C'est les Inner Development Goals. Je suis profondément inspiré par ces...
Qu'est-ce que c'est?
Alors, les Inner Development Goals, c'est justement une réflexion qui a été portée pour se dire quelle nouvelle posture développer pour atteindre les SDGs, les Objectifs de Développement Durable. D'accord. Ils ont développé 5 Inner Development Goals autour de l'être, donc le rapport à nous-mêmes, le penser, la capacité cognitive, l'interagir, donc prendre soin des autres et du monde, collaborer, les compétences sociales, agir, être moteur du changement. Et voilà, je trouve que c'est un set de compétences qui est hyper inspirant, justement pour se mettre en mouvement, pour transformer les choses. Moi, il m'inspire beaucoup dans mes accompagnements à travers Corporate for Change ou même le coaching. Et j'y puise une belle source d'inspiration en ce moment pour repenser en fait de quelles compétences et postures on a besoin pour construire ce fameux monde de demain.
Que dirais-tu à ceux qui hésitent à se lancer, à s'engager dans cette démarche? Est-ce que tu as un conseil par où commencer?
Moi, je vais redonner le conseil que mon jeune frère m'avait cité à l'âge de ses 18 ans. Il m'avait dit « Est-ce que la vie est belle quand on vit la vie qu'on veut ?» Et souvent, aujourd'hui, on ne sait pas réellement ce qu'on veut. Et on veut tout à la fois en même temps. Et je trouve que faire ce travail d'introspection en se demandant qu'est-ce qui est vraiment important pour moi, qu'est-ce qui est juste pour moi en ce moment, et se mettre en mouvement, dédier toute l'énergie, une fois qu'on a trouvé ça pour le faire advenir, ça peut soulever des montagnes.
Alors la dernière question est jamais évidente parce que je parle toujours à des gens qui sont très engagés et qui font déjà énormément de choses, mais j'aime bien quand même la poser. Toi, à titre personnel, quel changement positif voudrais-tu apporter dans ta vie pour aller encore plus loin ?
Je suis papa de deux enfants en bas âge et je crois que ce que j'ai envie de mettre en place comme changement positif, c'est de partager encore plus avec mes enfants sur ces sujets. On a déménagé récemment de Paris à la Bourgogne, dans un hameau, près d'une forêt. Et pour moi, c'est une formidable opportunité pour reconnecter avec eux, au vivant, et s'en inspirer pour agir, dès le plus jeune âge. Voilà, donc c'est à cet endroit-là que moi, j'ai envie de modifier des choses, en plus de ce que j'initie par ailleurs.
Faut commencer tôt.
C'est ça.
Est-ce que tu peux dire aux auditeurs où retrouver ton actualité ?
Oui, alors on a pas mal de choses sur le site de Ticket for Change, pour l'actualité à la fois de Ticket for Change et de Corporate for Change. On a aussi récemment sorti un MOOC avec HEC qui s'appelle Become a Changemaker, du coup c'est sur Coursera. Et voilà, il y a aussi mon site de coaching qui est en ligne et qui s'appelle manapla-coaching.fr.
Merci beaucoup Mathieu pour cette conversation passionnante.
Merci Elodie.
À bientôt.
À bientôt.
Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous retrouverez toutes les références dans la barre de description du podcast. N'hésitez pas à le recommander autour de vous et à le partager sur vos réseaux sociaux. Si vous voulez continuer la conversation ou vous tenir informé de l'actualité du podcast, retrouvez-moi sur Off We Go, le changement positif, sur Instagram et Facebook. Et n'oubliez pas que la meilleure façon de soutenir le podcast est de laisser des étoiles et des commentaires sur les plateformes et notamment sur Apple Podcasts. Je vous retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. Et d'ici là, mobilisons-nous. À très bientôt.